Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
La journée est dédiée au baiser, au soupir, à l'amour. Alors, Franck Ferrand, donc on dit, écoutez, je suis comme ça, moi. Jusqu'au cœur du harem de Topkapi à Istanbul, sur les traces d'une jeune esclave dont le sultan va tomber fou amoureux. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. La belle esclave dont vous parlez, en Occident, nous l'appelons Roxelane, et le sultan, maître absolu de tout l'Empire ottoman, c'est en personne Soliman le Magnifique. Vous imaginez déjà les sofas moelleux du harem de Topkapi, les aperçus par-delà des terrasses de marbre sur le Bosphore langoureux. Nous allons rêver un peu, nous allons rêver beaucoup.
Ah oui, avec plaisir. Je précise, Franck, que l'histoire de Roxelane est une histoire vraie.
Oh, tout ce qu'il y a de plus vrai, mais vous faites bien de le préciser, Julia, parce que pour un peu, on pourrait croire que nous avons affaire à un conte oriental avec un peu d'eau de rose et pas mal de poison.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Je ne crois pas qu'il y ait dans le monde d'endroits plus propices à tous les fantasmes. Imaginez un vaste logis très secret, lové dans le plus grandiose, dans le plus fastueux des palais, un endroit dont certaines parties sont interdites à tous les humains, hormis le sultan lui-même, sa propre mère et quelques eunuques triés sur le volet, outre les occupantes, naturellement. Les concubines du maître, que l'on appelle ici les cadines, de nos jours encore, le harem de Topkapi est un dédale assez obscur du reste, assez étonnant quand on le visite. On ne s'attend pas à voir ça avec des salons au plafond élevé, de petits couloirs, des boudoirs à claire-voie, des bassins de marbre blanc, des espèces de niches matelassées de divans très épais, peu de fenêtres, beaucoup de portes, des vapeurs d'ambre et de santal, des mosaïques, des entrelacs gravés, des tapis, des soieries déplacées par l'air souvent chaud. Voici la perle d'Istanbul, là, juste à la pointe du sérail, en surplomb tout à la fois du Bosphore, de l'entrée de la Corne d'Or et de la mer de Marmara. Petit saut de 5 siècles en arrière. Nous sommes en 1520, au moment où commence la plus incroyable histoire d'amour de tout l'Empire ottoman. Les jeunes femmes qui sont destinées au sultan ne résident à cette époque pas encore au nouveau palais, à Topkapi Saray. On doit dire, je crois, en turc Topkapı, mais enfin moi je ne parle pas le turc. Nous aurons tout à l'heure un invité qui le parle bien, évidemment. Donc les femmes du sultan ne sont pas encore à Topkapi, qui a été bâti à l'emplacement de l'ancienne acropole byzantine. À cette époque, les favorites résident en ville, au vieux sérail, et elles n'effectuent à Topkapi que de brefs séjours en fonction des désirs du maître. Celle qui va tout changer, c'est précisément notre Roxelane. Roxelane, c'est le nom qu'on va lui donner en Occident. Roxelane entre au harem impérial durant ce fameux hiver 1520. Elle a 15 ans à peine. Elle vient de Ruthénie, dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, mais qui appartenait à l'époque à la Pologne, donc à l'Empire russe. Une enfant de la steppe, en quelque sorte, fille d'un petit prêtre orthodoxe de Galicie, enlevée par des Tartares et vendue comme esclave à des marchands qui, à leur tour, l'avaient cédée au grand vizir Ibrahim, le compagnon de jeunesse de Soliman Ier, le padishah, le sultan du gigantesque empire ottoman. On imagine le traumatisme subi par ces jeunes filles qu'on déracinait comme ça, qu'on arrachait à leur vie et qu'on trimballait tant bien que mal jusqu'à Istanbul. Roxelane a dû se faire à la vie du harem sous l'autorité du Kizlar Agassi, du grand eunuque qui avait l'autorité suprême sur toute cette partie du palais, desservie par quelques 200 esclaves castrés. Les femmes du harem sont des persanes, des grecques, des slaves, des circassiennes, des allemandes, toute esclave non musulmane, puisqu'il est interdit à un musulman de réduire un autre fidèle en servitude. Roxelane est donc toute jeune, elle est très belle, comme toutes les femmes offertes au sultan, me direz-vous. Mais elle a en plus un charme, une douceur, un caractère enjoué, riant. Elle est toujours de bonne humeur, tout ça va lui valoir son nom turc, on va l'appeler Aseki Hürrem, c'est-à-dire l'élu joyeuse. Elle est la rieuse, en quelque sorte. On dit qu'elle est si plaisante, si gracieuse, qu'il est impossible en sa compagnie de ne pas voir se dissiper les idées noires et les soucis. Au moment de l'arrivée de Roxelane au harem, le sultan Selim Ier, surnommé le Cruel, vient de mourir. Il a été remplacé par un jeune homme de 26 ans, à l'air grave, au teint pâle, avec un long nez aquilin, avec des yeux profonds magnifiques. Magnifique, c'est le surnom qu'on lui donnera plus tard à ce jeune sultan Soliman Ier. À quoi ressemble la journée d'une jeune fille au harem ? Eh bien, la matinée se passe dans les vapeurs du hammam, repos, massage, longue toilette. Ce palais, dans les palais, s'organise selon toute une sorte de, j'allais dire, selon une hiérarchie. Au sommet, vous avez la sultane validée, la mère du sultan, qui veille sur les cadines, donc les concubines déclarées, mère d'un fils du sultan et dont le nombre ne doit pas dépasser 4. La mère du fils aîné jouit de privilèges particuliers. Elle pourrait voir un jour son fils régner. Elle pourrait devenir à son tour la sultane validée. En l'occurrence, cette première cadine, elle s'appelle Gulbahar et Roxelane l'observe autant que le lui permet l'étiquette rigide en vigueur au sein du harem. Et puis, il y a évidemment, on occupe ces jeunes femmes, elles ne sont pas livrées à une totale oisiveté, on leur donne des leçons, on leur apprend évidemment la langue, on leur donne également des rudiments de religion, et on va voir que dans le cas de Roxelane, elle ira bien bien au-delà de cela. Ce qu'il faut dire en effet, c'est que la nouvelle venue est non seulement, je vous l'ai dit, d'un naturel jovial, mais elle est d'un esprit ambitieux. Elle va tout faire pour se faire remarquer du sultan, pour obtenir que Soliman lui jette le mouchoir, selon la pratique en usage. Elle a le charme nécessaire. Elle va essayer de l'avoir, si je puis dire, en lui jouant de la musique, un art où elle excelle. Et bientôt, elle lui donnera à son tour un fils, mais ça, c'est un petit peu plus tard. Alors, est-ce que Roxelane aime Soliman ? Ça, personne ne peut l'affirmer. Je sais bien que c'est la Saint-Valentin et que j'aimerais vous raconter la plus belle de toutes les romances, mais ce qui est à peu près sûr, c'est pas très difficile à imaginer, d'après ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle n'a pas dû rester insensible à ce jeune demi-dieu auquel elle va donner 5 enfants, dont une fille. Ce qui est certain, en revanche, c'est que très vite, Soliman, de son côté, s'éprend de Roxelane et qu'il s'en éprend au-delà, bien au-delà de ce qui est admis habituellement de la part d'un sultan.
Sur Europe 1 de la Bacchanale, extrait de Samson et Dalila, signé Camille Saint-Saëns.
Alors bientôt, Soliman ne va plus pouvoir se passer de la jovialité, de la conversation agréable, du talent musical de sa belle Roxelane. Évidemment, cet amour ne pouvait que dégénérer en jalousie du côté de Roxelane. On est au cœur d'un harem tout de même. Vous imaginez que tout ce qui pourrait lui ravir le cœur du sultan, à commencer par la première cadine, mais aussi toutes les autres, tout ça, évidemment, l'agace beaucoup, elle ne va pas manquer une occasion de provoquer et d'attaquer les autres femmes. On dit qu'avec la première cadine aurait même eu lieu une altercation assez violente. Les deux femmes se tendent des pièges. Ceux de notre Roxelane, de la ruthénienne, sont généralement plus retors que ceux de la circassienne qui, dans la circonstance, va se laisser assez vite dépasser. Alors, après quelques mois de cette sourde lutte, il apparaît aux yeux de tous que Roxelane a clairement le dessus. Elle est forte d'un certain nombre de premiers succès, elle est devenue assez vite la préférée du sultan, elle est l'élu rieuse, je vous l'ai dit, elle va maintenant s'attaquer à beaucoup plus fortes parties. Son principal ennemi, ça va devenir l'homme qui est non seulement l'homme de confiance et le grand ami de Soliman, celui qui a été son ami d'enfance, le vizir Ibrahim en personne, qu'elle ne tarde pas, enfin quand je dis qu'elle ne tarde pas, dans les années qui suivent, elle va l'attaquer, elle va l'accuser d'impiété. Il faut dire qu'au cours de ces très nombreuses soirées intimes avec Soliman, elle a l'occasion de parler, bien entendu. Et ce qu'il faut que je vous dise, c'est que dès qu'elle a pu, Roxelane s'est montrée d'une réelle piété. Elle est allée jusqu'à converser longuement. Alors attention, elle est cachée derrière une tenture, vous imaginez bien, mais elle converse avec différents imams, avec des docteurs de la foi, ce qui va la conduire peu à peu à une sorte d'autre condition. Elle essaie, par tous les moyens, disons-le, d'échapper à sa condition servile. Et vous verrez tout à l'heure combien elle y réussira. En 1540, celle qui est toujours une esclave ira jusqu'à élever une mosquée, jusqu'à créer une école coranique, jusqu'à créer diverses fondations pieuses. Ça ne la fait pour l'instant toujours pas sortir de sa condition. Entre-temps, la mort de la sultane Validé, la mort de la mère du sultan, lui a ouvert de nouvelles perspectives. Désormais, elle est la reine incontestée du harem. Et du reste, c'est à ce moment-là qu'elle quitte définitivement le vieux sérail pour s'installer à Topkapi, où elle vit en souveraine, entourée d'un luxe qui tranche assez avec l'apparente humilité qu'elle met dans chacune de ses attitudes. Elle est maintenant, disons-le, à pied d'œuvre. Plus personne ne pourra vraiment s'interposer entre Roxelane et le pouvoir. Cette Roxelane est un tel personnage de roman, il est vrai que sa destinée fait tellement rêver qu'elle a été, c'est naturel, l'objet de toutes les attentions de la part de romanciers et de romancières, et elle a fait l'objet d'un très beau livre d'Isaure de Saint-Pierre, publié chez Albin Michel. C'est un roman comme on les aime, qui vous entraîne dans un univers extrêmement dépaysant. Isaure de Saint-Pierre est avec nous dans ce studio et dans un instant, nous allons voir avec elle à quoi pouvait ressembler notre Roxelane.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Roxelane, vous l'avez dit, l'épouse adorée de Soliman le Magnifique.
Et avec Isaure de Saint-Pierre, qu'on connaît évidemment, qui est la fille de son père, si je puis dire, l'homme des aristocrates. Isaure de Saint-Pierre, vous êtes romancière et vous avez consacré à cette Roxelane un très beau roman. Alors, vous ne la faites pas arriver tout à fait au sérail dans les mêmes conditions. Vous dites que ça n'est pas Ibrahim qui est derrière cette histoire.
Non, ce n'est pas Ibrahim, parce que d'abord, il méprisait assez les femmes. C'était quand même l'amant de Soliman. C'était plus que son ami d'enfance. Et ça a été ensuite, il a fait partie de la famille, puisqu'il a épousé la propre sœur de Soliman. Mm-hmm. Et il a été grand vizir, pas seulement vizir, premier vizir. Et elle est arrivée avant, puisque Soliman n'a commencé à régner qu'à 26 ans. En 1520, elle est arrivée au moins 3 ans avant, donnée par un des vizirs à la Validée sultane, qui était du temps où le père de Soliman vivait toujours. Et elle a vu très vite que, comme vous le disiez très bien, d'abord merci pour toutes les gentilles choses que vous avez dites.
Non, mais je vous en prie, elles sont sincères.
Elle était vraiment Urem, la joyeuse, et elle était très intelligente et très curieuse. Et la Validée a fait une chose qu'on ne fait jamais.
Donc la Validée, pour ceux qui arriveraient en cours, c'est la mère du sultan.
La mère du sultan, donc elle est la mère de son peuple, et c'est la seule femme dans tout l'Empire ottoman qui est d'islam à avoir le droit de sortir à visage découvert, puisqu'elle est la mère de son peuple. Et elle a donné la permission à Urem d'étudier dans la bibliothèque des princes, avec ce qui est tout à fait exceptionnel, avec les maîtres des princes. Et ça explique pourquoi Roxelane a pu faire des études
si poussées. Elle s'est cultivée, oui, c'est ça.
Elle s'est cultivée parce qu'elle a très bien compris que les femmes belles, il y en avait au moins 300, et elle renouvelait régulièrement. Et pour conquérir un homme, la beauté, après les premiers émois, je crois que ça ne suffit pas tout à fait. Elle avait une tête très politique et elle s'est, comme vous l'aviez très bien dit, tout à fait documentée sur l'islam. Mais un autre petit point, les enfants cueillis, on appelait ça cueillis.
Qu'est-ce que vous appelez les enfants cueillis? Dites-nous.
C'était le mot, on disait aussi de la chair vendue, ce qui était moins gentil. C'est tout l'Empire ottoman ne fonctionnait pas avec une féodalité, puisqu'on est sous l'équivalent de François Ier, qui a d'ailleurs été l'allié de Soliman pour briser un peu le Charles Quint qui le coinçait à l'est, à l'ouest, et Henri VIII au nord. Donc cette alliance avait été très mal vue, mais il n'y avait pas de féodalité. Enfin, il restait encore un peu de féodalité en France, un peu plus sa féodalité, mais des grands pouvoirs donnés par la noblesse, il n'y avait pas ça. Chaque fois qu'un vizir ou un grand vizir ou n'importe quel ministre avait amassé de très 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 grands biens, et Dieu sait qu'ils étaient grands, quand il mourait ou quand il était destitué, il devait le rendre à la couronne. Donc il n'y avait pas de féodalité, enfin, ou de noblesse comme une classe. Et tous ces enfants cueillis étaient tout de suite convertis à l'islam. Ils étaient quelquefois cueillis très jeunes et ils étaient formés selon leur capacité. Les garçons, ce qu'ils pouvaient faire de plus prestigieux, c'était de rentrer dans l'ordre des janissaires, qui étaient on appelait ça les soldats étrangers. C'était le corps d'élite de l'Empire ottoman. Et les filles, d'être très instruites pour devenir, si on pouvait, des sultanes. Alors normalement, on leur apprenait la musique, la danse, etc. Mm-hmm. Roxelane, elle a appris bien plus.
Oui, c'est ça, elle est allée plus loin. Elle est devenue une sorte d'intellectuelle, ce qui va pouvoir
en
faire...
Et de poète aussi.
Voilà, c'est ça, ce qui va pouvoir en faire une vraie confidente pour le sultan. Elle n'est pas seulement une femme pour les plaisirs, elle est une femme pour les plaisirs de l'esprit également.
Oui, hein, et ça, elle a pu le faire valoir qu'au bout d'un certain temps.
Alors,
quand
bien
même.
Sûr, évidemment. Mais elle était toute jeune, hein. On ne sait pas exactement, c'est difficile à dire.
On pense qu'elle avait à peu près 10 ans de moins que Soliman.
Nous avons un message très sympathique d'Isabelle qui nous envoie par Internet. Un grand bonjour d'Istanbul sous la neige, nous dit-elle. Grâce à Europe 1, nous continuons à vous écouter là-bas. Elle est ravie donc de cette émission sur le harem et elle nous précise bien que ça se prononce que Topkapi se prononce bien Topkapı. Et je vais demander la confirmation à mon autre invité, Faruk Bilici, qui est professeur à Langso et qui, lui, évidemment, maîtrise un peu mieux le turc que moi. Alors, ça se prononce comment, ce palais?
Oui,
bonjour.
Effectivement, Topkapı, en fait, qui veut dire la porte du canon. En fait, à l'origine, le palais en question ne s'appelait pas Topkapı, mais s'appelait, en fait, le nouveau palais par rapport à l'ancien palais qui se trouvait, en fait, au cœur d'Istanbul. Et pour des raisons de sécurité et de commodité, en fait, on a tout simplement, effectivement, déplacé le palais dans son nouvel endroit où il y avait, effectivement, une batterie de canons, en fait, pour surveiller le Bosphore. C'est véritablement la pointe du Bosphore.
Alors, pendant toute la première partie de notre histoire, la majeure partie, on peut même dire jusqu'en 1536, le harem se trouve donc dans ce qu'on appelait le vieux harem, hein, dans le cœur de la ville. Et ce qui veut dire que les femmes du harem faisaient constamment la navette avec le palais?
Absolument. Les femmes venaient, en fait,
On devait les cacher, j'imagine, non?
Oui, dans les voitures. Et où le sultan, exceptionnellement, s'y rendait. Et effectivement, c'est Roxelane, Hürrem Sultan, de son nom adoptif, eh bien, c'est elle qui, à la suite d'un incendie d'ailleurs, en fait, dans le vieux palais, on se demande d'ailleurs si elle ne l'avait pas provoqué pour pouvoir précisément déplacer le harem et être en permanence avec le sultan. C'est une rumeur, mais effectivement, elle a réussi, puisque désormais, comme vous l'avez dit, en fait, elle a introduit un véritable cérémonial, un véritable protocole dans le palais, ce qui n'existait absolument pas, c'est-à-dire que les femmes ont retrouvé véritablement leur place, en quelque sorte, en parallèle avec la partie des hommes.
Alors, Faruk Bilici, vous nous dites, en fait, elle avait peut-être provoqué cet incendie, ça servait ses desseins. Il y a toujours, dès qu'on parle de Roxelane, Isidore de Saint-Pierre, il y a toujours une sorte de suspicion. On la suspecte d'être une politique avant tout et d'avoir toujours trois ou quatre idées derrière la tête.
Elle était une politique avant tout, mais là, je ne suis pas tout à fait Faruk Bilici sur l'incendie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un des biens les plus chers de Soliman, c'est-à-dire toute la bibliothèque de Matthias Corvin, qui était en Hongrie, a disparu dans cet incendie. Et je crois que Roxelane, qui était une lettrée, n'aurait pas pris un risque que tant de belles choses disparaissent. Je crois que les maisons étaient en bois, encore bellement, comme les maisons médiévales françaises, et le feu se communiquait très vite. Mais elle en a largement profité après. Ça, c'est tout à fait vrai. Vous la rendez peut-être un petit peu plus calculatrice qu'elle n'est.
Vous m'aviez dit avant l'émission de femme, vous êtes historienne, mais enfin, il y a quand même au moins ce qu'il pouvait faire, en fait, c'est de dire, en fait, tout simplement, le palais pouvait être restauré et retourné, effectivement, ce qui n'est absolument
pas, n'a jamais eu le cas,
oui. Ce qui n'est absolument pas entré dans les calculs, en fait, de Roxane. C'est dans ce sens-là qu'on le dit. Sinon, le
tout
sultan
avait
parfaitement les moyens de réparer, en fait, le palais et de renvoyer le harem
bien
là-bas.
Sûr. On va revenir dans un instant sur ce harem. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai visité ce harem de Topkapı. J'ai été très surpris parce qu'on s'attend à un palais des mille et une nuits et c'est peut-être la partie la plus modeste, finalement, la plus resserrée de cet extraordinaire ensemble palatial qui domine la mer de Marmara. Nous nous promenons, vous l'avez bien compris, dans une belle histoire et qui est aussi une histoire d'amour en cette Saint-Valentin. Nous partons pour Istanbul dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous vous racontons aujourd'hui sur Europe 1 l'histoire d'amour entre une jeune esclave et un sultan, l'histoire d'amour de Roxelane et Soliman le Magnifique.
Eh oui, Soliman le Magnifique que les Français connaissent bien puisqu'il est quand même ce sultan avec lequel le roi de France, François Ier, ou pour être tout à fait exact sa mère, Louise de Savoie, a passé alliance. Alors on n'en finirait pas de signaler toutes les marques d'amour et même de dépendance amoureuse que Soliman ne va cesser de donner à Roxelane tout au long de son règne. Il a éloigné sa rivale du harem en nommant son fils gouverneur dans une province où elle a été priée de le suivre. Un ambassadeur de Venise, vous savez que les récits d'ambassadeurs sont une source extrêmement précieuse à l'époque. Un ambassadeur de Venise raconte que le sultan l'a des reproches et des remontrances que Roxelane ne cessait de lui adresser à propos de ses penchants pour diverses filles du harem, finira par les renvoyer. Elle a compris, évidemment, Roxelane, mais c'est la base. Lorsqu'on veut faire carrière, si je puis dire, quand on veut devenir reine, entre guillemets, elle a compris qu'il fallait donner des enfants au sultan, et notamment des fils, bien entendu. Alors après le prince Mehmet, elle va donner au sultan 3 autres fils et une fille, Selim, Bayezid, on dirait nous, je pense, Bajazet, et puis, qui d'ailleurs naît au moment de... Ils naissent ensemble, hein, au moment des... Ils sont jumeaux. Ils naissent au moment des fêtes en l'honneur d'Ibrahim. Alors évidemment, ça ne fait qu'attiser la grande rancœur que peut éprouver Roxelane pour l'ami de son sultan. Et puis elle aura un quatrième fils, alors là évidemment Djangir, c'est plus douloureux pour elle car il naîtra difforme, boiteux, bossu, et pour une femme comme elle qui ne voit tout que dans une optique d'excellence, d'élévation et d'ambition, disons-le, évidemment il devient un problème. Elle se console avec le fils aîné dont elle sent, dont elle sait, dont elle va tout faire pour qu'un jour il puisse devenir à son tour le sultan. Je vous ai dit que Roxelane consacrait beaucoup de temps à la religion et beaucoup de moyens aux fondations pieuses. Néanmoins, elle va bientôt se heurter aux limites de ce système puisque quoi qu'elle fasse, n'étant pas elle-même musulmane, évidemment, elle ne peut pas espérer en tirer tous les bienfaits. Alors elle va tomber dans une forme de... Est-ce qu'on peut parler de dépression ? C'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, elle va se montrer d'une sorte de langueur de plus en plus grave jusqu'à inquiéter le sultan qui finit par essayer de trouver une solution. Et la seule solution possible, c'est de faire sortir Roxelane de sa condition. Et bientôt, on va apprendre, quand je dis bientôt, c'est tard évidemment dans le règne, on va apprendre dans Constantinople et bientôt dans tout l'Empire cette nouvelle extraordinaire. Soliman élève au trône une esclave récemment affranchie et il va en faire, tenez-vous bien, son épouse légitime.
L'ouverture de l'enlèvement au sérail de Mozart sur Europe 1.
Et je crois qu'il nous reste quelques minutes. J'attendais une petite virgule pour tout
petite
vous dire.
Musique, enfin, d'accompagnement. Nous avons Mozart.
Il nous reste quelques minutes pour jouer et pour rejoindre notre auditrice Isabelle là-bas à Istanbul.
Exactement, de quoi lui faire un petit coucou. Nous vous proposons de jouer pour un séjour de 4 jours, 3 nuits pour 2 personnes à Istanbul, offert par turquivision.com, le spécialiste des voyages en Turquie depuis 30 ans. Ce séjour comprend, je le rappelle, les vols aller-retour au départ au choix parmi 3 aéroports en France, l'hébergement en hôtel 4 étoiles et l'accompagnement d'un guide conférencier pour vous permettre de découvrir les quartiers insolites de la ville. Valeur du séjour, 1100 euros tout de même. Pour vous inscrire au tirage au sort, vous envoyez le mot de passe, c'est couple au singulier par SMS au 739-21, 50 centimes plus coût d'SMS, ou bien vous nous appelez au 39-21, 34 centimes la minute. Nous aurons le gagnant ou la gagnante à la fin de l'émission. Bonne chance à tous.
C'est pas seulement la Saint-Valentin aujourd'hui sur Europe 1, c'est Byzance. Alors, les jeux de mots un peu faciles.
Mais écoutez, ça marche très bien quand même. Il faut tenter, oui.
Alors, Isor de Saint-Pierre, quand même, vous avez eu fort à faire pour maintenir jusqu'au bout cette histoire d'amour. Alors quand même, qu'on est en présence d'un personnage dont le moins qu'on puisse dire, c'est que ses amours sont, sinon tarifés, du moins à double pensée.
Je crois que c'était obligatoire dans le monde très cruel du harem, parce que vous voyez les soirées, etc., que vous décrivez divinement d'ailleurs. Mais il y avait aussi le lacet des muets, les sacs dans lesquels on fourrait...
Il faut
les...
expliquer ce que c'est que ce lacet, à quoi il sert.
Alors les muets étaient des pauvres serviteurs auxquels on avait coupé la langue et parfois crevé les tympans. Comme ça, ils ne pouvaient pas, étant donné qu'ils n'avaient pas reçu de... qu'ils ne savaient pas écrire et lire, ils ne pouvaient pas divulguer ce qui s'était passé. Donc tout le monde se servait, pourvu qu'on ait un peu d'argent, pour faire passer vite de vie à trépas... personne gênante. Et bien des concubines du harem ont fini sous le lacet des muets ou alors enfermées dans un sac qu'on jetait au Bosphore. C'était pas un univers tendre. Derrière les soirées, il y avait des poignards, il y avait les lacets, il y avait beaucoup de choses.
Et derrière les caresses de Roxelane, il y avait évidemment la politique, car elle aura été, on pourrait établir une liste de ces femmes qui, dans diverses civilisations, ont été comme ça, à la fois de grandes favorites et d'incroyables ministres. Elle s'intéressait de près aux affaires. Elle a mis peu à peu ses propres enfants, bien entendu, dans le circuit. Je cite un paragraphe parmi temps de votre roman. Au mois de novembre, racontez-vous, Soliman était encore en campagne. Et oui, parce qu'il y a tout cet aspect militaire également dont nous n'aurons pas le temps de parler. Un petit vent hargneux soufflait du Bosphore et décoiffait les cyprès des jardins. C'était une saison que Roxelane n'aimait guère, prélude à ces hivers qui lui semblaient rudes et interminables, où sa réclusion de femme lui pesait, même si elle sortait presque chaque jour du sérail et se promenait à sa guise dans sa ville. Pourtant, elle ne pouvait voyager en l'absence de Soliman. Quand il n'était pas là, elle devait se contenter de veiller aux affaires courantes de l'Empire et de tramer des plans qui ne pouvaient se réaliser qu'avec l'aval de Soliman. Cependant, son courrier l'absorbait, les multiples lettres qu'elle écrivait à Soliman, à Rustem, qui guerroyait avec son sultan, à Mehmet qui gouvernait à Sarukhan, ou à Selim qui se trouvait à Konya, l'occupait. Sans cesse, elle voulait tout savoir, tout connaître, tout régenter. C'était sa façon à elle d'exister.
C'était effectivement une femme de pouvoir et c'est pour ça que Soliman, je pense, l'a aimée aussi éperdument. Parce qu'elle était au courant de tout, que son immense fortune, c'est-à-dire le revenu de la pantoufle, qui était vraiment une fortune considérable, lui servait à avoir ses espions partout. Et comme vous le disiez tout à l'heure, elle s'est bien servie aussi de la religion pour... Elle était musulmane, hein. Toutes les enfants du harem étaient convertis à l'islam. Mmh. Simplement, n'étant pas une femme libre, tant qu'elle n'a pas été épousée, elle ne pouvait pas avoir de bienfaits si elle faisait un acte de générosité comme élever une mosquée. Et c'est pour ça, c'est comme ça qu'elle a tenu Soliman. Et quand il l'a faite une femme libre, elle a dit que dans ce cas-là, elle pécherait si elle se donnait à lui. Et pendant 3 jours, Soliman a résisté. Et après, il avait tellement besoin d'elle et tellement envie d'être dans ses bras qu'il a consenti justement à l'épouser. Mais secrètement, parce que c'était interdit dans l'Empire ottoman depuis que, je crois, Tamerlan avait humilié une des femmes du sultan en la forçant servir nue.
C'est un cas quasiment unique.
Pas unique, en fait, dans l'histoire ottomane. Il y a eu des sultans en fait, qui ont fait des mariages, contracté des mariages, notamment au début de l'Empire ottoman, dans sa phase de fondation, notamment lorsqu'ils se sont fait contracter des mariages avec des princesses byzantines, par exemple. N'oublions pas que les Ottomans ont vécu pendant 150 ans côte à côte avec des Byzantins. Donc, il y a eu des mariages officielle. Donc les princesses byzantines ou serbes ou bulgares ne pouvaient pas être recrutées comme des esclaves. Donc il y a eu des mariages. Il y a eu d'autres mariages aussi, cette fois-ci, des femmes d'origine musulmane. Donc le sultan ne pouvait pas les prendre comme concubines. Il y a eu donc
là,
des mariages de officiels.
Oui, c'est ça.
Alors c'est pas du tout
ce
un secret.
Ce qu'il faut bien expliquer
en fait,
pour nos auditeurs, c'est que le sultan peut avoir une épouse qui est musulmane et qu'il a par ailleurs des concubines qui elles sont alors certes converties mais esclaves en fait et
oui.
Donc comme
voilà,
elles sont de conditions serviles, il ne peut pas les
fait,
épouser.
Ça reste toujours en fait le statut juridique, que ce soit d'ailleurs pour les hommes, que ce soit pour les femmes, le statut juridique reste esclave. Cela veut dire que en fait ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas être affranchis. C'est le cas justement de Roxelane. La plupart d'ailleurs sont affranchis. Mais au bout du compte, le statut quand même reste assez précaire puisqu'il reste des coules, comme on dit, des serviteurs ou des esclaves, sans être envoyés forcément dans le bagne,
bien sûr,
ou,
bien
etc.
Sûr.
Mais enfin, il y a quand même un statut un peu inférieur par rapport au reste de la population.
Alors comment s'organisaient ces harems? Comment y vivait-on? Quelle a été aussi l'évolution au fil du temps? C'est ce que nous voyons avec vous deux dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Couverte de joyaux, couchée sur le satin. Dans les harems royaux, nus, embaumant jasmin. Musc et santal mêlés, ondulant parmi l'or. Et les corps emmêlés. Elles attendent leur sort.
Musc et santal mêlés. Brigitte Fontaine nous chante Harem sur Europe 1, Franck.
Mais oui, je trouve les paroles de cette chanson, on n'a pas le temps d'entendre entièrement, mais c'est magnifique. Alors, puisque c'est magnifique, tiens, à ce propos, nous n'avons pas beaucoup parlé quand même de la personnalité de ce sultan extraordinaire qui domine littéralement l'histoire ottomane, Soliman le Magnifique. Était-il aussi taciturne que je l'ai décrit dans la première partie de l'émission?
Non, pas tellement. En fait, c'est un personnage qui a été élevé par un père extraordinairement d'un règne court, mais extraordinairement riche, parce qu'en 8 ans, imaginez que l'Empire ottoman a doublé son territoire. Le monde arabe est entré en quelque sorte, dans sa grande majorité, en fait, sous la coupe de l'Empire ottoman. Et donc, Soliman le Magnifique n'était pas aussi taciturne que vous pouvez le croire, puisqu'il a aidé, en fait, en réalité, son père, lorsqu'il était gouverneur lui-même à Kaffa, en Crimée, pour accéder au trône. Et par conséquent, il a absolument pas eu le temps d'être taciturne, parce qu'il a été élevé en quelque sorte à la fois dans l'apprentissage du gouvernement, mais aussi dans l'apprentissage des militaires, dans les campagnes. Et lui-même, de sa vie, il n'a pas eu beaucoup, beaucoup de temps. Probablement, il n'a assez de consacré ni à son harem, ni à Roxelane. Et c'est la raison pour laquelle on a quand même une correspondance assez riche, parce que en fait, c'est la correspondance qui compensait quelquefois le manque de temps de se voir dans le palais.
Farouk Bilissi, on est à l'apogée de l'Empire ottoman à ce moment-là, au début du XVIe siècle.
C'est véritablement en fait la grande période effectivement de l'apogée de l'Empire ottoman. Disons que ce qui a été commencé par Selim Ier, donc son père, a été véritablement consolidé et surtout. L'Empire ottoman est devenu une puissance incontournable et indispensable à l'Europe. Donc c'est le sultan Soliman le Magnifique, donc dit le législateur pour les Turcs, était avant tout en fait un souverain européen, c'est-à-dire au cœur de la politique européenne. Celui qu'on en parle souvent, les relations avec François Ier, Louise de Savoie, mais au-delà de tout cela, en fait, il y a 3 souverains qui règnent sur le monde, on peut dire, sur le vieux monde. C'est Soliman le Magnifique, et François Ier
et bien sûr
Charles Quint. Donc une politique européenne et moyenne-orientale sans ces 3 souverains pouvait penser indispensable, impossible, pardon.
Alors, est-ce que Soliman, on sait qu'il a couvert littéralement non seulement Istanbul, mais la Turquie de somptueux monuments. Est-ce qu'il a joué un rôle dans l'organisation du palais de Topkapi ?
Bien, absolument. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit actuellement ne date pas forcément de la période de Mehmet II, donc du fondateur du palais. Et effectivement, c'est essentiellement à l'époque de Suleiman le Magnifique. Et n'oublions pas d'Ibrahim Pacha, qui a, on peut dire, régné à côté du sultan pendant 17 ans.
Est-ce qu'il régnait à deux?
Et de Mimar Sinan, qui était le grand architecte. C'est lui qui a... fait justement la Suleymanie, je dois prononcer très mal, et c'est lui qui a donné un petit peu à tout le monde arabe, vous me direz si je me trompe, cette impulsion, de cette forme de la mosquée reprise un peu de Sainte-Sophie, mais beaucoup plus épurée, beaucoup plus aérienne, etc. Et en même temps, quand il y a eu cette histoire de réorganisation de Topkapi, c'est lui qui a fait les kiosques, la salle du divan, etc., qui a été aussi très rénovée. Mais alors, quand vous parlez de ce sérail très tortueux et, un peu indigeste, on va dire, c'était tant que les femmes du harem n'avaient pas été remarquées par le sultan. Alors là, je vais encore prononcer un mot que vous allez rectifier.
Avant de me couper la parole, effectivement,
c'est Goz. Allez-y. Goz. Oh, je vous ai pas coupé la parole.
Non, je t'en prie. Alors,
Goz, comment vous dites, celle qui a eu l'œil du...
Gozdé. En fait, c'est la femme favorite, effectivement. C'est celle qui est en première ligne. Alors, en fait, ce favoritisme ne vient pas comme ça parce qu'elle est belle ou etc. C'est parce qu'elle lui a donné, en fait, un héritier. Donc, un héritier mâle. Donc, ce qui importe beaucoup, c'est que l'héritier mâle, mais pas seulement dans le cas de Roxalan. Il y a une fille dont on ne parle pas du tout, de Mehrima Sultan. C'est de ce trio qu'en fait, en réalité, il faut parler.
C'est-à-dire, alors, rappelez-nous ce trio.
Ce trio, c'est donc Hürrem Sultan, bien sûr, sa fille, en fait, et pour faire que son frère, en fait, règne, donc Selim II, c'est Mehrima Sultan, en fait, c'est celle, et son mari. C'est-à-dire
Rustem Pacha,
qui en fait crée un véritable triumvirat à l'intérieur du palais, qui gère la politique et en même temps élimine aussi, évidemment, là c'est
quasiment un clan qui se constitue.
C'est un parfait clan. Ouais. Et alors, non seulement ce clan est véritablement un clan politique, mais c'est aussi une colossale fortune des trois. Et nous avons en fait dans tout l'empire, évidemment, des joyaux laissés à la fois par Hürrem Sultan, et alors n'oublions pas, à la Mecque, à la Médine, à Jérusalem, en fait, si vous prenez à Jérusalem, à Istanbul, elle a tout un quartier, et Rustem Pacha, évidemment, a construit d'innombrables mosquées, et si vous allez à Istanbul, évidemment, sur Üsküdar, et aussi comme la partie européenne, il y a aussi deux mosquées, en fait, de Mehrima Sultan, qui a joué aussi un rôle extrêmement important dans cette période.
Merci Faruk Bilici. Je rappelle que vous êtes professeur des universités en études ottomanes et histoire turque à Langso et que vous dirigez la collection bibliothèque turque chez Actes Sud Sinbad. J'ai sous les yeux un très beau livre des éditions Ouest France qui a été signé par Altan Gökalp, qui nous a quitté l'année dernière.
Effectivement,
très beau, très bel album sur les harems, mythes et réalités. Isor de Saint-Pierre, comment meurt-elle, notre Roxelane ?
Elle meurt, c'est toujours un peu bête de mourir, mais elle meurt d'un refroidissement pendant justement un trajet. Il sortait souvent à un endroit plus clément ou avec des très beaux jardins qui était le palais des eaux douces. Et là, lors d'un voyage entre les deux, justement par cette neige qu'évoquait Isabelle, et j'ai vu moi Istanbul sous la neige, et c'est une féerie. Donc la roue de sa litière s'est enlevée, elle a pris froid et elle est morte à 54 ans en arrivant à Topkapi. Et elle avait...
Elle est morte d'un refroidissement, disons-le.
D'une pleurésie. Et Soliman était vraiment désespéré. Il a eu l'impression, parce que depuis la mort d'Ibrahim et aussi de son fils aîné, Mustapha, deux assassinats.
Mustapha qui n'était pas l'ami de Roxelane, mais enfin ça c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire, c'est un peu plus compliqué.
Depuis, il ne sera attaché qu'à elle, en fait.
Et c'est là où il était devenu triste, parce qu'effectivement, vous aviez raison, avant c'était un homme qui n'était pas du tout comme ça. Mais il a commis deux assassinats extrêmement graves par personnes interposées qui lui ont beaucoup pesé. Et quand Roxelane est parti, il a eu l'impression qu'il n'y avait plus personne pour le comprendre.
Il a eu quand même des remords, beaucoup de remords. Et ces remords, au lieu de s'attacher, disons, faire pardonner ses péchés, il s'est attaché, en fait, par défaut, par à Roxelane, parce qu'en fait,
exactement,
il a eu beaucoup, beaucoup de remords, parce qu'il a, il a assassiné tout simplement le, son fils aîné, qui était le bien-aimé, en fait, de son père, quand même.
Isaure de Saint-Pierre, La Magnifique, vous avez sous-titré roman, ce qui est très honnête, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un roman incroyablement documenté. Vous êtes par ailleurs, on sait, grand reporter, vous voyagez beaucoup.
Beaucoup.
C'est une chance de vous avoir à Paris aujourd'hui, finalement.
Oui, je pars dans une semaine pour le Laos, oui, c'est un peu une chance.
Alors, bon voyage, Isaure de Saint-Pierre, La Magnifique, c'est publié chez Albin Michel. Merci à vous deux de nous avoir entrouvert les portes de cet endroit incroyable, le harem du sultan de Constantinople.
Bonjour. Il est temps de connaître Franck, notre gagnant du séjour de 4 jours, 3 nuits pour 2 personnes à Istanbul en hôtel 4 étoiles offert par TurkeyVision.com, notre partenaire. Il s'agit d'une femme, Céline de Goudelin dans les Côtes d'Armor. Bonjour Céline, bienvenue sur Europe 1.
Bonjour Franck, bonjour Julia.
Bravo Céline.
Merci.
Alors qu'est-ce que vous allez faire pendant ce séjour? Avec qui allez-vous partir, si je puis me permettre de vous poser la question?
Je vais partir avec mon amoureux.
Qui s'appelle comment?
Yvan.
Bah c'est parfait,
oui.
Ça.
Ben voilà. La bon
Turquie,
voyage.
Magnifique.
Merci
ah,
beaucoup,
sublime.
Europe 1.
Vous allez faire un des plus beaux voyages de votre vie, vous allez voir.
Oh oui, oui. Merci.
Bravo, Céline. Merci de votre fidélité. Et puis une petite carte postale, hein, Céline et Yvan. Ça nous
pas
fera plaisir
problème,
ici, Europe 1, rue François
1er,
à Paris, dans le 8e. Merci, Céline. Au revoir.
Merci et bonjour.
C'est la Saint-Valentin sur Europe 1.
On est un peu perturbé par la Saint-Valentin.
Par les musiques, Saint-Valentin. Et alors, on va être perturbé nous aussi chez les experts, puisqu'on casse l'antenne. Nous vous proposons une émission spéciale Astro Love. D'ailleurs, sans révéler votre année de naissance, je peux vous dire.
Oui, on peut
je peux vous dire, Franck, puisque vous savez que je m'intéresse beaucoup à vous. Hein, je fais des émissions extra pour vous. Eh bien, je peux vous dire que cette année, vous êtes dans un train amoureux particulier.
Ah, ben, ça se met
le train de l'amour, c'est dans un instant avec Muriel Siron. Vous voulez en savoir plus concernant votre thème astral amoureux pour 2012? Eh bien, vous nous appelez au 3921. C'est toujours 34 centimes d'amoureux, j'allais dire.
Oui.
34 centimes
d'euros
la minute. Mais comme on l'a dit hier, quand on aime, on ne compte pas.
Merci, Elena. On est un peu en retard, mais je vous dis quand même à demain, Julia.
À demain, avec plaisir. Mais oui, que voulez-vous? On est heureux sur Europe 1. C'est la fête des amoureux. 14h01. Un peu de retard. Désolé, Christophe Charles. Bonjour quand même.
Bonjour, pas de souci.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.